No enger Finanzkris an interne Konflikte huet vun engem halbe Joer de Stéphane Pallage Spëtz vun der Uni Lützebusch iwwerholl. Wat wéng Visioun huet den neue Rektor? Wéi steet et d'Autonomie an die zukünfteg Ausrichtung vun der Uni? De Stéphane Pallage ass haut eisener Witte vum Dach. Mit Gentringer feiertech Gespräch.
Une nouvelle loi qui doit entrer en vigueur en août, un nouveau plan financier pluriannuel jusqu'en 2021 dont les budgets pour 2018 et en partie pour 2019 sont déjà ficelés. Un nouveau recteur qui chaperonne 6500 étudiants, 1600 salariés, enseignants et administratifs compris, trois facultés et trois centres interdisciplinaires. Bonjour Stéphane Pallage.
Bonjour.
Vous voulez faire d'une université, une start-up, une université de renommée internationale, avez-vous déclaré lors de votre discours inaugural. L'université est jeune, mais plus vraiment petite. Et vu le financement, l'État met pour les prochaines 4 ans 765 millions d'euros à la disposition de l'université. Une hausse de 30%. Quelle orientation voulez-vous donner à l'université avec l'argent dont vous disposez ?
Mais je pense que cette université a un potentiel absolument fabuleux. C'est une université qui a 15 ans cette année. En 15 ans, elle a réussi à se hisser déjà parmi les meilleures du monde, parmi les meilleures jeunes universités. Hein, il y a plusieurs rankings qui sont très 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 prisés. Un d'eux, c'est le ranking du Times Higher Education, dans lequel l'université du Luxembourg se classe 11e au monde parmi les universités de moins de 50 ans. Aucune université dans ce classement n'a réussi une telle prouesse en 15 ans. Donc ce que je veux dire, c'est que l'université, elle est déjà reconnue. Elle est déjà très très reconnue au niveau international.
Donc plus vraiment une start-up.
Mais start-up, j'ai peut-être été mal interprété lorsque je l'ai dit, c'est que nous avons été une start-up à l'origine et nous avons peut-être un peu géré l'université comme une start-up pendant des années, ce qu'elle n'est plus, elle n'est plus une start-up aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons professionnaliser au maximum l'administration, la rendre plus orientée vers le client. Et le client, c'est l'étudiant, c'est le professeur, c'est le chercheur. Et faire en sorte que, finalement, le développement de notre communauté à l'interne soit optimal.
Professionnaliser l'administration, ça veut dire aussi plus de transparence et une meilleure communication. On va en venir encore, mais d'abord, revenons au budget. Les budgets 2018 et en partie 2019 sont en principe clôturés. Vous n'étiez pas encore là quand cela s'est fait. Est-ce qu'après les élections qui vont avoir lieu cet automne, vous avez l'intention de renégocier avec le nouveau gouvernement une enveloppe budgétaire élargie ?
Écoutez, nous avons signé un plan quadriennal avec le gouvernement. C'est un contrat de performance et il est prévu dans ce contrat qu'à mi-term, donc entre 19 et 20, nous renégocions éventuellement certaines enveloppes. Donc, quel que soit le gouvernement, c'est certain que j'irai m'asseoir à la table du ministre à un moment donné. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas question de demander plus d'argent.
Et vous faites avec ce que vous avez.
Bien sûr.
Chaque faculté, chaque centre interdisciplinaire a ses demandes et projets. Il veut se développer et trouve qu'il est probablement le plus important. Vous, en tant que recteur, vous devez pondérer selon votre vision. Quelle est votre vision ?
Ma vision, c'est l'excellence. Je veux que l'université soit excellente, bien sûr, en recherche, qu'elle soit excellente dans toutes les dimensions de sa tâche, en éducation également. Et nous allons travailler sur l'assurance qualité de l'enseignement que nous fournissons, mais également excellente dans les services, et ça veut dire aussi l'administration interne. Donc la vision, c'est d'être une des meilleures universités du monde dans les 10 prochaines années. Puis je pense que nous pouvons nous rendre là.
Il y a une certaine rivalité et des intérêts divergents entre les facultés, les centres interdisciplinaires, entre la mission d'enseignement et la mission de recherche de l'université. Quand je vous demande selon quelle vision vous les pondérez, ça veut dire aussi comment est-ce que vous voulez distribuer les budgets et comment est-ce que vous voulez éventuellement renforcer les facultés ou les centres interdisciplinaires ou l'enseignement d'un côté et la recherche de l'autre. Et c'est ça que je vous demande. Comment est-ce que vous définissez votre vision concernant ces différents éléments?
Écoutez, la pondération actuelle, elle est très bonne. Il y a un très bon équilibre entre les centres et les facultés. Chacun rend sa mission de la manière, je pense, d'une manière relativement optimale. Il y a peut-être des ajustements à la marge qui peuvent être faits, mais on ne va pas changer de manière fondamentale la répartition des budgets entre les unités. Si je prends la faculté des sciences humaines, par exemple, elle a un budget d'environ 35 millions. C'est une faculté qui brille dans toutes les dimensions de sa tâche. Et il n'est pas question de modifier cela dans les années à venir.
Si on regarde maintenant les centres interdisciplinaires, dont le nouveau centre interdisciplinaire dans le secteur des sciences humaines, dont la mission est la recherche historique contemporaine et digitale. Par exemple, si on regarde la faculté et ce centre interdisciplinaire, est-ce que selon vous, les moyens sont bien départagés, les moyens financiers entre les deux, ou est-ce que le fait que peut-être un en ait plus que l'autre, ça peut créer des rivalités ?
Ça pourrait créer des rivalités, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire que le centre C2DH, le centre d'histoire contemporaine et digitale, collabore énormément avec la faculté. En fait, il y a beaucoup d'interactions, des professeurs qui sont des deux côtés, des étudiants de doctorat qui sont des deux côtés également. Ils sont situés dans les mêmes locaux, donc tout favorise la collaboration entre les deux unités.
En général, quelle doit, selon vous, être la place des sciences humaines à l'université ?
Très grande. Je pense qu'une université a besoin de sciences humaines. Sinon, ce n'est pas une université, c'est une école technique. Nous avons besoin de nous développer au niveau humain. Et je pense que la faculté des sciences humaines, de tout temps, a contribué beaucoup à la société luxembourgeoise.
Où est-ce que vous voulez mener, Stéphane Pallage, l'université dans ces disciplines ? Est-ce qu'il y a des disciplines que vous voulez à l'avenir renforcer ? Par exemple, digitalisation, ICT, est-ce que c'est un secteur qui doit se développer davantage ?
Oui. Absolument. Je vous dirais que l'université a fait des choix. Dans le dernier plan quadriennal, je n'étais pas présent quand ces choix ont été faits, mais il y a 8 grands champs qui ont été identifiés comme des champs prioritaires, parmi lesquels vous retrouvez l'informatique et la sécurité notamment. Vous retrouvez l'histoire digitale et contemporaine. Vous retrouvez le droit européen, etc. Un certain nombre de grands champs, dont des champs d'intérêt nationaux comme les sciences de l'éducation.
Mon invité ce matin est Stéphane Pallage, le nouveau recteur de l'université. Donc nouveau, ça fait 6 mois que vous avez été nommé ou que vous êtes en fonction. L'université est jeune, mais pas sans histoire. Votre prédécesseur, Anna Klump, a à peine tenu 2 ans et s'est retiré en pleine crise de gestion et de problèmes budgétaires. Les représentants des enseignants, chercheurs et des étudiants réclamaient la mise en place de procédures budgétaires qui tiennent la route. Ça a été fait entre-temps avec une nomination d'un nouveau chef administratif, mais surtout en réclamer aussi de la transparence. Est-ce que vous voulez changer la gestion de la communication ?
Juste pour revenir sur le 6 mois, effectivement, 6 mois, c'est court, mais je vous dirais que ça ressemble à beaucoup, beaucoup plus, tellement il y a une intensité dans la tâche. Mais transparence, oui, bien sûr, c'est fondamental. Si on veut que notre organisation soit bonne, soit efficace, soit excellente, il faut qu'elle soit transparente. Mais c'est un défi. Et oui, la communication est un défi de tous les instants, parce que l'université, c'est une ville en soi. Il faut être capable de communiquer à tous. Et je vous avoue que c'est un de mes grands défis, la communication à la fois interne et externe dans les prochains mois.
On a le recteur et les vice-recteurs et les doyens qui sont plus près de la base entre la direction en fait de l'université et les équipes qui travaillent dans les facultés. Comment est-ce que vous voyez la communication entre ces deux volets, rectorat et doyen ?
Écoutez, c'est la même équipe. Nous nous voyons très très souvent. Nous avons des rencontres, ce qu'on appelle le management team, où le recteur, les vice-recteurs, les doyens et les directeurs de centre sont présents. Et c'est là qu'on aborde toutes les grandes questions qui touchent l'université. La collaboration est vraiment bonne.
La nouvelle loi de l'université donne en théorie plus d'autonomie à l'université. En pratique, cela signifie quoi ?
L'autonomie, c'est essentiel. Une université a besoin de pouvoir travailler sur les sujets qu'elle juge les plus importants. Il y a ce qu'on appelle la liberté académique au niveau des universités, qui font qu'un chercheur ne va jamais se faire diriger par l'administration, par exemple. Donc les recteurs, vice-recteurs restent très loin des champs de recherche des professeurs. Ça, c'est l'autonomie à l'interne. L'autonomie à l'externe, elle est importante aussi pour qu'il n'y ait pas des individus qui dictent à l'université ce qu'elle doit faire. Et je vous dirais qu'au Luxembourg, l'autonomie est très bien respectée dans les deux dimensions, à la fois à l'interne et à l'externe.
Au-dessus de l'université, au-dessus du rectorat, il y a le conseil de gouvernance. Dans ce conseil de gouvernance, il y a aussi un commissaire du gouvernement, un représentant du ministère compétent. Et son rôle, et quel devra être son rôle ?
Son rôle est de vérifier si, dans les décisions que nous prenons, la loi est toujours respectée. Et c'est un rôle qu'il fait très bien. Moi, je le connais depuis 6 mois. Et je trouve que la communication entre le commissaire, le conseil de gouvernance et les organes universitaires est très bonne.
L'autonomie se joue aussi dans la nomination des doyens, des facultés. Prochainement, le mandat de Paul Reuchling, doyen de la faculté des sciences, prendra fin. Comment voulez-vous régler sa succession ?
De façon très simple, la nouvelle loi prévoit que le recteur fait une recommandation au conseil de gouvernance après avis conjoint de l'ensemble des professeurs de la faculté. Donc ça se fera d'une manière qui n'est pas tellement différente de celle que nous avons connue jusqu'ici. Et vraisemblablement, lorsque la nouvelle loi sera en vigueur, dans le courant de l'automne, Paul Oeschling va être doyen jusqu'en octobre. Donc nous allons trouver un successeur par ce processus que je viens de vous décrire.
Donc vous tiendrez compte de l'avis du corps enseignant. C'était jusqu'à présent comme cela que les doyens ont été désignés. Il y avait l'équipe des enseignants, du corps des enseignants qui élisait le nouveau doyen. Donc si la base a trouvé un candidat pour sa faculté, vous y tiendrez compte.
Bien sûr.
Quelle devrait être, selon vous, la place du secteur privé et des entreprises au sein de l'université concernant le payoff, le return on invest? L'État a mis beaucoup d'argent dans cette université et s'attend à ce que, éventuellement, cela rapporte aussi de l'argent à l'économie luxembourgeoise.
Et ça en rapporte, hein. Je ne pense pas qu'on l'a chiffré, mais l'université contribue énormément à la société en formant des gens dans tous les domaines qui sont très demandés par le milieu du travail. Et c'est vrai aussi pour les domaines les plus pointus. Nos doctorants, par exemple, dans certains domaines, trouvent des emplois dans l'industrie. Habituellement, un doctorant, en tout cas dans le modèle d'autrefois, le doctorant s'en allait presque toujours dans le monde académique. Ce n'est plus nécessairement vrai. Aujourd'hui, dans le domaine de l'intelligence artificielle notamment, et des big data, les doctorants sont très recherchés par l'industrie.
Un autre volet, les études de médecine. À l'université de Luxembourg, le gouvernement a décidé de créer un bachelor en médecine. Est-ce que l'enseignement de la médecine va être développé au-delà de cela? Quelle est votre vision, Stéphane Pallage? Est-ce qu'il y aura une medical school?
Le choix qui a été fait par le conseil de gouvernance est un choix le choix de la prudence. Une école de médecine, c'est quelque chose qui coûte très très cher à terme, et donc il a été décidé d'y aller par étapes. La première étape, c'est effectivement la mise en place d'un bachelor en médecine qui sera prêt pour la rentrée de 2020. Ensuite, au bout d'un certain nombre d'années, ce bachelor va être évalué. Si on juge qu'il est opportun de continuer, on introduira également des masters spécialisés. Mais il n'est pas à ce stade question d'avoir une faculté de médecine au sens très très large du terme. Peut-être que ce sera le cas dans 10 ans et nous allons voir.
Et quand est-ce que cette évaluation va être faite? On vous avait parlé pour voir comment est-ce qu'on va développer ce secteur à l'avenir.
3 ou 4 ans après le début du bachelor.
Combien de personnes intéressées est-ce qu'il y a en ce moment pour ces études de médecine?
On sait qu'il y a beaucoup de Luxembourgeois qui veulent étudier la médecine. Alors, ils font parfois une première année chez nous, qui existe déjà depuis des années, mais ensuite, ils doivent aller à l'étranger. On pense qu'il y aura de quoi faire une très belle cohorte d'étudiants pour la rentrée 2020.
Vous avez un chiffre éventuel estimé?
J'ai peur de dire des bêtises, mais oui, les spécialistes ont un chiffre en tête.
D'accord. Bon, après 6 mois, est-ce que vous regrettez ou ne regrettez pas votre décision d'être venu au Luxembourg? Vous êtes venu dans une université qui est jeune, mais qui a de l'histoire et qui est quand même aussi compliquée d'une certaine façon, vu comment elle est née. Donc, quelle est votre appréciation 6 mois après?
Aucun regret, absolument. C'est le plus beau défi de ma vie, certainement.
Merci Stéphane Pallage pour cet entretien.
Merci à vous.
An den Stéphane Pallage, als Direktor von der Uni Lützebüsch, mit Gantringer, hat das Gespräch geführt.